Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Et si je commençais l'histoire par la fin ? J'ai besoin de vous, il y a pas mal de sujets, une multitude à vrai dire, qui n'ont pas encore été abordés ici. Alors, tandis que vous me laissez des étoiles sur iTunes, dites-moi dans un avis les thèmes que vous aimeriez découvrir par le truchement de nos petits voyages dans le temps. Vous pouvez aussi me le dire évidemment sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Bref, là maintenant, c'est une conversation sur le thème de la culture, des droits culturels qui va s'ouvrir. C'est un épisode en partenariat avec la démarche de COP21 locale signée par la métropole Rouen-Normandie avec les acteurs locaux. C'est chouette, non, de parler de culture là où l'on s'attend surtout à débattre énergie, climat, mobilité. La culture aussi, elle fait partie des champs de la transition. Mon invité se nomme Manuel Chesnaud. Droit culturel, donc, arrachement du quotidien, désacralisation de l'artiste, accessibilité, tiers-lieux culturels sont au menu. Bonne dégustation. Le futur commence ici et maintenant. Salut Manuel.
Bonjour Rebecca.
Tu m'accueilles dans un endroit avec un ciel bleu magnifique. Merci pour ça, pour ce ciel bleu. Merci aussi pour cette vue sur la cathédrale de Rouen. C'est assez chouette. Avant que l'on découvre le thème que tu as choisi pour la conversation, j'ai envie que tu nous parles de l'endroit qui nous abrite. Ça fera le lien.
Nous sommes à l'Opéra de Rouen. On est un gros établissement culturel avec une centaine de salariés et plus de 600 salariés qui passent à l'année au final entre tous les intermittents, les artistes, les techniciens.
Alors vous qui nous écoutez, peut-être que vous aurez la chance d'entendre en fond musical, parce que nous on a ça de temps en temps, il y a une répétition en ce moment.
Exactement. Oui.
Et donc on entend un concerto pour piano, je pense, quelque chose comme ça. Et donc c'est plutôt... jouissif d'avoir ça en fond sonore. Nous sommes à l'Opéra, au lieu de la culture sur la métropole rouennaise, et c'est de culture dont on va parler ensemble. Le thème que tu as choisi, ce sont deux mots, les droits culturels. Donc tu vas me définir ce que c'est. Mais avant ça, j'aimerais aussi que l'on parle d'un projet que tu portes, qui s'appelle Data, qui va venir, je pense, nourrir notre discussion. Donc j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi Data ?
Alors Data, c'est un acronyme pour domaine d'activité transartistique. C'est une idée qu'on a eue avec Stéphane Monnier, qui est le directeur du Calif. Un projet qu'on porte depuis 5 ans aujourd'hui, qui est un projet de création d'un tiers-lieu culturel et d'animation d'un réseau. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur ces deux axes-là. Et l'objectif, ça serait de permettre en fait de répondre aux besoins des acteurs culturels aujourd'hui, mais aussi des citoyens, des entreprises, en proposant des lieux un peu différents, tels qu'on peut les voir aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a sur la métropole la chance d'avoir beaucoup de théâtres, beaucoup de lieux de diffusion, des lieux de répétition, beaucoup moins pour le coup, et des lieux de pratique artistique. C'est vrai qu'on le retrouve dans les lieux municipaux, mais là, la volonté serait de réunir un peu toutes ces différentes typologies d'activités, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, de réunir aussi des entreprises culturelles, mais aussi des entreprises du secteur privé, et de faire en sorte que les gens se croisent. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait... une méconnaissance au sein de notre milieu culturel entre les disciplines et un peu général. Après, forcément, individuellement, les gens peuvent se connaître, mais globalement, on a découvert ça et nous, on l'a vécu individuellement. Et puis, avec le milieu de l'entreprise, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance totale entre ce que fait une entreprise et puis les différentes typologies d'entreprises, entre la TPE et la PME et les grandes entreprises. Et puis après, pareil pour les acteurs culturels qui peuvent être aussi pris du côté de l'entreprise, comme les saltimbanques, enfin des gens qui... voilà. Et en fait, ce projet porte ces valeurs-là, c'est-à-dire du décloisonnement, de la rencontre, de l'humain, de la connaissance les uns des autres.
Alors tu parles de méconnaissance, peut-être aussi parfois un peu de défiance, parce que dans le milieu culturel, alors moi je le vis pas de l'intérieur, mais... Parfois, on peut se poser la question d'art mineur, d'art majeur, de frontières invisibles entre des univers qui sont plus patrimoniaux, plus populaires.
Bah, c'est vrai qu'il existe toujours, en tout cas dans les politiques culturelles, c'est vrai, c'est cette question des beaux-arts, même si elle n'est plus nommée aujourd'hui, mais on voit aujourd'hui que des établissements comme les grands musées nationaux, comme les grands musées, même le musée des beaux-arts à Rouen, l'Opéra, ce sont des établissements qui sont très dotés et qui ont besoin d'être dotés de ces manières-là au regard de leurs activités. Et c'est vrai que c'est... par rapport à tout ce qui est art populaire, les arts de la rue, après on pourrait parler de plein d'autres typologies de disciplines, il y a... En tout cas, la reconnaissance passe pas par la dotation. Et donc, c'est comment faire en sorte qu'il y ait ce croisement et cette reconnaissance globale de l'ensemble de ces pratiques qui ne touchent pas forcément les mêmes personnes, qui évoluent aussi, chacune avec l'histoire qu'elles ont. Ces disciplines évoluent au regard de la confrontation avec le public, au regard de l'évolution même des artistes et du contexte général. Donc, comment faire en sorte pour aujourd'hui, effectivement, faire que chacun puisse s'y retrouver, que ce soit les publics, il n'y a pas un public, c'est une multitude de publics, et qui peuvent parfois se retrouver à différents endroits. On a tous plusieurs casquettes dans nos vies, que ce soit professionnelles ou dans le privé, et c'est pareil dans les publics. En fait, il y a des personnes qui aiment plusieurs typologies d'artistes ou de disciplines artistiques. Et donc, c'est comment faire pour décloisonner aussi et avoir des regards différents sur ces pratiques.
Alors, décloisonner, j'imagine aussi, parce que tu as utilisé, je crois, le terme de reconnaissance, et aussi de reconnaissance aussi peut-être à l'échelle d'un territoire, de ce que apportent les cultures, les arts, que ce soit sur les questions sociales, mais aussi économiques, l'impact environnemental, c'est aussi cette approche globale qui est promue.
Oui, enfin... En tout cas, c'est vrai que moi, ces questions-là me touchent beaucoup sur effectivement comment on travaille dans la société avec les contextes qui existent aujourd'hui, comment on fait pour intégrer toutes ces questions écologiques, sociétales, et comment on fait pour, au-delà de promouvoir et faire reconnaître le travail des artistes, comment faire en sorte pour qu'aussi ça rentre directement en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'avec le data, on porte ça, avec l'Opéra de Rouen et la démarche éco-responsable qu'on a mis en place, et puis la COP21.
Oui, parce que l'Opéra est partie prenante de l'accord local sur le climat.
Exactement, on est coordinateur de la coalition spectacle vivant de la COP21.
Oui, je crois qu'il y a le Trianon transatlantique qu'on fait partie aussi.
Il y en a une, en fait, on a appelé... On a identifié 35 ou 37 structures de spectacles vivants sur le territoire de la métropole, donc sur les 71 communes, et il y en a 15 qui ont signé l'accord de Rouen à ce jour. Et donc l'Opéra est coordinateur de cette coalition qui s'est engagée sur trois axes, effectivement, pour réduire les émissions à effet de serre et le CO2 et développer des pratiques beaucoup plus éco-responsables.
Très bien. Alors, venons à cette expression de droit culturel.
L'Opéra de Rouen s'est engagé dans une démarche autour des droits culturels avec le réseau Culture 21, qui est un réseau qui s'est constitué suite à la déclaration de Fribourg. Déclaration de Fribourg qui est sur les droits culturels, justement.
D'accord.
Et qui a rédigé des articles pour définir un peu ce que sont les droits culturels. Et donc, nous, on est rentré avec l'Opéra dans une démarche de recherche-action où on a fait une étude de différents cas pratiques et l'étude de la déclaration de Fribourg pour essayer de se l'approprier. Et notamment Patrice Meyerbich, qui est un des universitaires qui a travaillé à la rédaction de cette charte, qui nous a accompagnés aussi et qui a intervenu, etc. Les droits culturels, ça fait référence à beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'abord, c'est un des droits fondamentaux qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme, je crois que c'est le 26 ou 27. Et donc, c'est inscrit comme un droit fondamental. Donc, pour Patrice Meyerbich, c'est peut-être même le plus important. Ensuite, il a été repris dans la déclaration de l'UNESCO, il a été repris dans différentes déclarations au fur et à mesure. Et là, tout récemment, dans la loi NOTRe, qui est la nouvelle réorganisation des collectivités territoriales, où les droits culturels doivent être respectés par les collectivités, et puis dans la loi LCAP, loi création, architecture et patrimoine. Et donc, les collectivités aujourd'hui sont obligées de s'emparer de ça, et le secteur culturel s'en empare. Après, ça a fait controverse au début, quand ça a été voté, puisqu'il y avait cette appréhension de tout est culture et donc n'importe qui peut programmer, n'importe qui peut faire de l'art, n'importe qui peut être professionnel. Et du coup, ça a créé vraiment des questionnements au sein du milieu culturel. Et pour moi, m'être plongé dans cette démarche de recherche-action, je trouve que évidemment, c'est pas du tout ça. Et on est vraiment dans une démarche de réflexion sur ces pratiques. C'est vraiment une démarche qui permet de s'analyser et puis de voir comment on peut respecter ses droits culturels. Alors il y a une petite problématique de champ sémantique, je trouve déjà à la base, parce que les droits culturels, quand on est dans le social, on se rend compte que ça touche énormément de choses, ça va toucher plein d'endroits. Et quand on est dans le milieu culturel, on a tendance à associer droits culturels à culture et artistique.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, droits culturels, ça touche les modes de vie, les croyances, les habitudes vestimentaires, les habitudes culinaires, les pratiques artistiques, évidemment, les pratiques du quotidien, les modes de transport. Donc c'est ça les droits culturels. Et donc il y a en tout cas, du coup, maintenant aujourd'hui, on est obligé de respecter toutes ces choses là donc les droits culturels des individus et des personnes. Et donc ça va au-delà de l'artistique, en fait.
Oui,
ça en
ça.
Fait partie, mais ça va au-delà. Et donc nous, dans notre champ du domaine artistique et du champ culturel, respecter les droits culturels, ça veut dire, est-ce qu'on prend en compte tout ce que sont les personnes quand elles viennent participer, que ce soit sur scène ou en tant que public, à leurs droits culturels. Et donc, c'est assez complexe, puisque la déclaration est assez dense, il faut vraiment la manipuler. Ce n'est pas un langage qu'on a l'habitude de manipuler, puisque voilà, il y a tout un texte qui est rédigé pour justement être le plus interprétable possible et en même temps qui oriente très fortement. Mais ça pose des questions sur, il y a 8 droits en fait, qui ressortent au sein de cette déclaration de Fribourg, parce que là je m'écarte effectivement de juste les droits culturels dans la loi. Oui. Donc dans la déclaration de Fribourg, il y a 8 droits, mais qui vont toucher autant le patrimoine, l'identité, les communautés, la participation à la vie culturelle, la communication, l'information, la formation et donc l'éducation. Et donc ces 8 droits-là, c'est tout un outil, en fait, et un outillage qui nous permet d'analyser nos pratiques. Donc nous, on a fait une étude de cas, par exemple, sur la brochure de l'opéra.
Ouais.
Et donc, on a analysé la brochure de l'opéra au regard de tous ces critères-là. Et on s'est rendu compte que y avait plein d'endroits où on pouvait améliorer les choses au regard des droits culturels. Donc, par exemple, sur la manière dont on expliquait les spectacles. Donc là, sur la nouvelle brochure, on a fait appel à une rédactrice extérieure qui a rédigé et qui a essayé de faire que le langage soit beaucoup moins technique ou de quelqu'un de sachant de la musique classique ou de l'opéra. Et ça a essayé d'ouvrir et de donner quelque chose de plus accessible par rapport à ça. Finalement, ça peut être très concret, l'analyse des droits culturels. Ça peut être sur des choses telles que la brochure, mais ça peut être aussi sur la programmation, ça peut être sur... On a analysé un opéra et de voir comment cet opéra-là s'était constitué, qu'est-ce qu'il y avait eu comme problématique rencontrée, est-ce qu'on avait réussi à résoudre les problèmes rencontrés, comment on avait réussi à les résoudre, et au final... comment cette dynamique de réflexion nous amène à tirer des enseignements. Voilà, c'est par exemple sur la notion de communauté qui pose vraiment question. Et puis en France, on sait que déjà, dans la loi, la question de communauté se pose question. Et en tout cas, il y a les partisans du pour et partisans du contre. Dans les droits culturels, la communauté, c'est une définition où les gens se reconnaissent et se reconnaissent eux-mêmes d'une communauté. Donc on n'assigne pas les gens à une communauté.
Ouais.
Et du coup, ça fait prendre du recul. C'est-à-dire que si on programme un spectacle de musique indienne, aller voir la communauté indienne, ça ne veut rien dire finalement. Mm-hmm. Parce qu'on peut être issu de la communauté indienne et finalement pas écouter de musique indienne et puis écouter totalement autre chose. Donc, du coup, c'est re-réfléchir un peu à nos modes de communication et comment on fait pour intégrer les gens et comment on fait pour finalement avoir un rapport différent à la manière de communiquer, à la manière de proposer ces spectacles-là, de comment et à quoi ça correspond et comment
Alors, tu le dis, donc là, c'est un travail en cours. Et justement, sur les droits culturels et peut-être aussi pour le centrer dans l'univers du milieu artistique, le droit à la culture en 2050, quand on se projette dans 30 ans, est-ce que tu arrives à dessiner ce que pourrait être ce monde de la culture et de son implication dans le territoire, dans la vie? Tu faisais référence à un auteur qui plaçait les droits culturels comme le droit fondamental premier. Qu'est-ce que ça dessine comme monde en 2050?
Pour moi, effectivement, les droits culturels peuvent vraiment être un moyen de pouvoir, en tout cas, de trouver des solutions et des méthodologies qui peuvent donner des solutions pour essayer de répondre à ces questions qu'on se pose aujourd'hui sur comment intégrer des nouveaux publics, comment faire en sorte que les gens s'impliquent dans la vie culturelle beaucoup plus. Donc, en 2050, effectivement, c'est dans 30 ans.
Ouais.
C'est tout frais, ça vient d'être voté dans la loi, ça a 2 ans, il n'y a même pas de décret d'application sur, sur l'application des droits culturels, alors qu'en Belgique, il y a eu un décret d'application qui a été voté. Donc, il peut y avoir encore des marges d'évolution dans le terme législatif. Et puis après, c'est comment on s'en empare tous individuellement, au même titre que, par exemple, l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie, on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place chez les citoyens, et ce serait la même démarche qu'il faudrait éventuellement inciter et développer pour qu'en 2050 les droits culturels soient un droit tout aussi respecté que les autres droits fondamentaux, même si certains droits fondamentaux ne sont pas tout à fait respectés
déjà,
aujourd'hui.
Il y a déjà de la marge là-dessus. Enfin, chaque individu, justement, par ses origines, par son mode de vie, constitue en fait son propre socle de droits culturels, et qu'une somme d'individus fait pas forcément culture, fait pas forcément collectif. Et une des choses que ça me pose comme question, c'est est-ce que en 2050, en fait, est-ce que justement les milieux artistiques vont être capables de créer peut-être, enfin d'être ces espaces qui recréent du collectif. On se voit plus que dans la somme d'individus, et que justement par cette offre artistique de créer ce lien et un socle, voilà, c'est ça, de société, quoi, qui fait société.
Bah, je pense que c'est déjà l'objectif aujourd'hui, en fait, des structures de diffusion artistique, et puis des créateurs. Enfin, voilà, les artistes en eux-mêmes, s'il y a cette volonté de faire société, cette volonté de questionner la société, de remise en cause, et c'est ce qui fait que ça existe aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt de l'artistique aujourd'hui, et de la pratique culturelle, qu'elle soit dans professionnelle ou amateur. C'est comment on donne du sens, comment on crée du questionnement. Et en 2050, je pense qu'elle sera toujours présente, elle aura peut-être d'autres modalités, parce que d'ici 30 ans, les choses vont évoluer, évidemment. Mmh. Peut-être qu'il y aura, effectivement, on aura trouvé des solutions sur aujourd'hui des limites qu'on atteint en termes de pour toucher certains publics.
Oui, parce que le public, par exemple, pour donner des lignes assez évidentes, le public de l'opéra, c'est sans doute pas le public du calife.
Exactement, on sait que le public de l'opéra est plus âgé que le public des musiques actuelles. Après, c'est aussi intéressant de pouvoir répondre à des besoins et à des pratiques culturelles différentes. Et donc après, peut-être que les droits culturels vont peut-être de permettre de mieux argumenter aussi autour de ces besoins différents et la nécessité de la cohabitation de ces espaces différents qui ne proposent pas les mêmes choses, mais qui répondent à de la nécessité d'expression artistique, à la nécessité d'expression d'une envie d'écouter ces expressions artistiques. que les droits culturels peuvent apporter cette réflexion en interne et aussi en externe, plus pour les citoyens et les collectivités qui sont les grosses financeuses de tout ce qui est milieu culturel.
Est-ce que aussi, si les droits culturels, le concept fait son petit bonhomme de chemin, est-ce que ça peut permettre, à l'horizon 2050, de sortir d'un modèle qui consisterait uniquement à consommer de la culture ? Parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où on prend en compte les droits culturels, on entre en dialogue, en fait. On n'est pas juste là à payer un abonnement et vous verrez trois beaux spectacles. On rentre dans un dialogue et qui construit et qui fait qu'on n'est pas juste spectateur, artiste ou spectateur, on est dans un dialogue sur le sens, qu'est-ce que ça dit de notre société, enfin voilà, instaurer ça.
Oui, il y a vraiment cette question de participation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout cet aspect consommation qui, je pense, continuera de toute manière, parce que c'est aussi une envie des citoyens. Mais...
Puis je pense que les grandes salles de spectacle, on n'est pas prêt de les rappeler par des noms. Enfin voilà, maintenant, c'est tous... Accor Hôtel Machin Arena.
Merci. Oui.
Enfin, tous ces trucs-là qui montrent qu'on est dans une offre culturelle de consommation.
Oui, il y a une offre culturelle de consommation et puis il y a tout le développement de la pratique et ça passe aussi beaucoup par. Alors, il y a tout un champ au niveau du scolaire qui pourrait être vraiment très développé sur le lien entre éducation nationale et culture, puisque. En développant les pratiques artistiques à l'école, ça permet d'ouvrir un champ aussi pour les élèves qui est autre que celui des matières classiques, on va dire, même si aujourd'hui elles ont une place, mais on sait qu'elle est quand même assez minime. En développant ça, par exemple, ça pourrait permettre d'avoir beaucoup plus d'impact sur cette pratique artistique et donc cette ouverture au monde artistique. Après, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'individus veulent pour leurs enfants qu'ils pratiquent du sport, qu'ils pratiquent un art, une pratique artistique, que ce soit du dessin, de la musique. Enfin, y a vraiment cette volonté-là. Donc, on voit que c'est quand même très prégnant chez les gens individuellement. Maintenant, c'est comment on donne du sens à cet ensemble d'actions. Et donc, effectivement, ça passe par plein de choses, effectivement, que ce soit sur les types de propositions, sur les manières de les proposer au public, que ce soit sur les liens qu'on fait avec les différentes communautés, avec les différentes personnes et les individus, avec les entreprises, je pense qu'en développant toutes les strates, parce qu'effectivement, il n'y a pas de solution, enfin, il n'y a pas une solution, il y a des solutions, et il y a beaucoup de tests à faire aussi. Il faut qu'on teste aujourd'hui, il faut qu'on expérimente, puis qu'on améliore au fur et à mesure.
Donc en 2050, il faudrait dupliquer le concept de data, en fait, d'avoir des tiers-lieux culturels où se croisent et les différents acteurs de la culture, les différents publics, sur un dialogue, sur... c'est un peu hors sujet, mais je lisais un article cette semaine sur... les intellectuels, en fait, parlent à des mouvements de type les gilets jaunes. Et je pense que l'artiste, en fait, selon moi, doit être un passeur. Enfin, la culture devrait être un peu cet endroit où des luttes sociales... sont entendues, retraduites par une offre, une lecture artistique, plutôt qu'une offre, une lecture artistique, et que c'est peut-être cet endroit de dialogue et qui fait que on se comprend, on se parle, alors qu'aujourd'hui, le constat dans l'article, c'était un peu de dire, les gilets jaunes, alors évidemment, il n'y a pas les gilets jaunes, c'est comme il n'y a pas la culture, le public, etc. Mais où il y a un rejet, en fait, de ces sphères qui sont, c'est ça, qui sont pensées comme stratosphériques, étant au-dessus, ne comprenant pas. Et je pense que la culture, elle a sa place pour qu'en 2050, peut-être recréer ce lien, quoi.
Alors, pour répondre à ta question, je ne pense pas que le data est la solution. Je pense que le data participe à la solution. Et je pense que des établissements qui existent aujourd'hui, tels les gros établissements culturels labellisés, sont nécessaires, puisqu'ils défendent des présentations de typologies et de disciplines vraiment spécifiques, avec des moyens spécifiques dédiés à la création ou à la diffusion, et qui permettent de montrer aussi un patrimoine, parce que c'est important aussi de pouvoir continuer à montrer le patrimoine artistique. Donc, moi, je pense que Il y a quelque chose autour de la sacralisation de l'artiste, effectivement, qui peut évoluer avec les droits culturels. Je pense qu'effectivement, sur ce lien, parce que l'artiste est en lien avec la société de fait aujourd'hui, et c'est comment faire en sorte qu'il y ait peut-être cette désacralisation, ou en tout cas, cette réaction peut-être un peu plus avec d'intensifier cette relation avec les citoyens. Et le data, effectivement, parce que tous les établissements culturels qui ont été construits jusqu'à aujourd'hui sont des établissements avec une volonté de diffusion, avec des problématiques d'ouverture où ça ne peut pas être ouvert en permanence. Donc on vient à des moments donnés, avec des horaires d'ouverture donnés. Et le data, lui, essaye d'être... Enfin, en tout cas, on le pense comme quelque chose d'ouvert tout le temps. Et donc après, c'est les gens qui font vivre le data. Mmh. Et donc cette idée de tiers-lieu, ça change aussi les modalités. On n'est plus simplement dans la consommation, dans le fait de venir à un moment, à un endroit donné. Mais là, on vient et puis on voit ce qui se passe et on peut découvrir des choses. Mm-hmm. Mais voilà, ces questions se posent aujourd'hui à Rouen comme ailleurs sur comment on fait pour redonner cette notion de lieu de vie à ces théâtres, à ces salles de spectacle, mm-hmm. pour que les gens soient sur le partage du moment au-delà de simplement de venir voir ce spectacle-là, parce qu'il a un intérêt, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, ça renvoie énormément plein de choses, mais du coup, comment collectivement on en fait quelque chose au-delà simplement de la présentation artistique.
Une question que je me pose aussi, qui est aussi un peu à côté, mais qui est liée, c'est le statut des artistes. Mmh. C'est vrai que... artistes et puis les métiers autour, parce que je pense au statut d'intermittent, de la précarité que ça peut recouvrir, parce qu'il y a les artistes très connus, mais puis il y a la myriade d'artistes qui pour le coup sont peut-être encore plus ancrés dans le sens de leur pratique et de leur réflexion. Si on n'a pas on parlait de désacraliser et en même temps il y aurait besoin de mieux reconnaître ce statut pour que les artistes puissent encore plus être acteurs de la société en 2050, ça peut être un
vrai sujet. C'est un vrai enjeu. On voit encore aujourd'hui qu'il y a la volonté de toucher au régime de l'intermittence et donc de modifier et de réduire encore l'accès. Et c'est vrai que que ce soit pour les artistes ou pour les techniciens de ce régime-là, c'est un vrai moyen de mettre en œuvre les disciplines et les créations artistiques. Et donc c'est nécessaire de pouvoir garder un régime, de garder des moyens qui sont donnés pour pouvoir pratiquer professionnellement le métier d'artiste ou d'acteur du spectacle vivant. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et effectivement, en 2050, si on développe, ou en tout cas si on maintient ce régime, c'est un vrai moyen de pouvoir développer, de permettre au fait que le milieu artistique puisse vivre. Si, à contrario, on attaque ce régime et que ce régime n'existe plus, il y aura totalement un nouvel équilibre à trouver pour faire en sorte qu'il y ait une relation avec les artistes, avec le domaine artistique. Enfin, ça va vraiment être, ça pourrait être vraiment très très problématique dans l'avenir.
Et je pense à autre chose, plus sur les arts, la peinture. Je repense à Banksy, à ce qu'il a fait, là, son œuvre qui s'est détruite au moment de la mise en vente, au moment où ça a été acheté. Parce que tout à l'heure, on parlait de sortir d'un rapport de consommation à la culture. Et puis, il y a aussi le développement de la spéculation autour de l'art. Alors, je ne suis jamais allée à la FIAC, mais quand à chaque fois, il y a des articles qui se posent la question, c'est de l'art ou c'est pas de l'art, des investisseurs qui viennent pour investir et pas pour partager. Enfin bref, il y a aussi une vraie question sur comment on va sortir de la spéculation, de la marchandisation des œuvres d'art, et donc par ça de leur décalage complet avec, et c'est un peu ce que je pense Banksy a voulu dénoncer, parce que lui, son travail, son art, il est ancré dans la rue, et c'est de dénoncer les travers de la société.
Alors moi, je ne suis pas spécialiste du tout d'art contemporain, et un peu comme toi, et effectivement, la spéculation existe vraiment dans le milieu de l'art contemporain. Et il peut y avoir une déconnexion entre, en tout cas, la spéculation qui existe et l'œuvre qui parle et qui donne du sens à, et qui s'inscrit dans une histoire de l'art contemporain et qui s'inscrit dans une société telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a des dérives, forcément, il en existe, et c'est comment faire en sorte pour que ces dérives soient moins visibles, en tout cas qu'il y en ait le moins possible, pour qu'on faire en sorte que finalement ça reconnecte. On voit bien de toute manière tout ce qui est œuvre monumentale et tout ce qui est quand ça s'inscrit dans la ville, quand c'est et ben ça crée du sens et ça, on voit tout de suite que ça parle après quand on est sur des salons, parce que finalement la FIAC c'est un salon de l'art contemporain, on sent que là on est dans un marché, on n'est pas dans le même rapport,
c'est
en
ça,
fait,
ouais,
et donc c'est comment on fait pour effectivement faire en sorte que on garde ce lien avec avec les citoyens finalement, et en étant dans l'espace public c'est un moyen, mais en étant aussi dans les musées, dans les espaces qui sont dédiés à ça, il y a moins, même si on sait que voilà, il peut y avoir ce rapport à la spéculation, mais elle est moins dans ces endroits-là.
Tu viens de parler des musées, je me disais ça pourrait être rigolo d'imaginer ce que pourrait être un musée en 2050. Alors j'imagine qu'avec les technologies, il y aurait plein de choses qui permettraient, je ne sais pas, en un claquement de doigts, d'avoir déjà des informations augmentées ou je ne sais quoi sur les œuvres. Et puis aussi que ce lieu puisse aussi être un peu désacralisé. Une fois, j'étais dans un musée et il y avait des jeunes qui rigolaient. Et on est venu leur dire « Ah mais non, mais rigolez pas, quoi !» Et je me disais, mais justement, cette culture patrimoniale, on a peut-être aussi, si une œuvre nous fait rire, et ben c'est que ça provoque une émotion en nous et que c'est une richesse. Et que peut-être que ces lieux aussi soient plus ouverts, plus vivants et qu'il se passe des choses qui, voilà, qui mettent en dialogue les gens dans une salle, le dialogue entre l'œuvre, le médiateur, le public. Peut-être quelque chose à imaginer comme ça.
Bah, je pense qu'en 2050, les choses ont vraiment évolué. On voit tout de suite là, sur le milieu des bibliothèques, où les bibliothèques ne font plus que bibliothèques, elles font plein d'autres choses aujourd'hui. Mmh. Elles font des ateliers, elles font des jeux vidéo, elles font des films, etc. Je pense que les musées sont déjà dans une mutation aujourd'hui, avec effectivement le travail de médiation qui n'a plus du tout rien à voir.
Puis on tout ce qu'ils font aussi avec Muséomix, ils font des trucs géniaux.
Avec tous les
Muséomix
qui sont sur les mêmes choses que les Bibliomix, effectivement. Et effectivement, il y a des choses qui se passent sur l'intégration du numérique, sur les nouveaux rapports aux œuvres, sur comment on fait pour qu'on désacralise aussi ces œuvres, comment on les met en rapport avec la société aujourd'hui ou avec des œuvres d'aujourd'hui et comment les choses se répondent, comment ça s'inscrit.
Quand Beyoncé et Jay-Z sont au Louvre.
Non, mais c'est vrai que ça pose question. Enfin, voilà, ça évolue. De fait, ça évolue. On n'a pas le même rapport. Et dans les musées, on pourrait se poser les mêmes questions sur les publics des musées. Est-ce que c'est pour continuer à faire que les gens viennent, comment faire en sorte que, effectivement, l'offre et les propositions évoluent pour que il y ait plus d'interactions, qu'on puisse peut-être effectivement être plus libre d'agir, de réagir dans ces milieux-là. Ça va dans tout ce qui est convention, en fait. C'est comme à l'opéra, c'est d'abord les blocages psychologiques,
c'est
en fait, qu'il faut réussir à dénouer, parce qu'en fait, plein de gens ne vont pas au musée parce qu'ils disent « c'est pas pour moi, l'opéra c'est pas pour moi », etc. Ou il faut être... faut être en costard pour aller à l'opéra, on peut venir en jean basket, il n'y a pas d'obligation, mais il y a des codes qui existent encore, ou en tout cas dont on a l'impression...
Et qui n'ont pas toujours été comme ça, parce que je pense à la musique classique d'aujourd'hui, Mozart par exemple, en fait, quand il y avait des concerts, les gens parlaient, c'était festif, alors qu'aujourd'hui, on croit que forcément, ça doit être quelque chose de très sacré.
Mais on le voit aujourd'hui dans les salles où les enfants applaudissent à la fin d'un mouvement, et du coup, ça surprend les musiciens et les chefs d'orchestre, parce qu'on n'applaudit pas normalement entre les mouvements, on applaudit à la fin, et en fait, ça, c'est tous les codes qui sont aujourd'hui en train d'être bousculé, évidemment, parce que c'est les gens d'aujourd'hui, ils sont là, ils réagissent, c'est les enfants, il y a quelque chose de naturel, et en même temps, empêcher des enfants d'applaudir, c'est contre-productif.
C'est
donc, ils expriment une joie, quelque chose qui... Et donc ça, c'est comment accepter tout ça, et comment faire évoluer aussi les pratiques des professionnels, sans que ça dérange non plus, parce qu'il y a une exigence aussi de qualité, d'écoute, etc. Donc c'est... Trouver les bons équilibres, effectivement, d'ici 2050, toutes ces choses-là vont être...
Et puis en 2050, moi j'aimerais bien qu'on ait beaucoup investi dans, dans ce beau métier qui est celui de la médiation culturelle, parce que alors j'ai eu la chance de faire de la musique en pratique amateur et de jouer en orchestre notamment. Et j'ai découvert, grâce à ces pratiques, dans une petite école de musique, etc., mais que, à quel point jouer une symphonie de Beethoven ou peu importe de Mozart, ça pouvait être hyper rock'n'roll. Mm. J'ai découvert en fait des rythmiques qui sont en fait, enfin moi j'étais prête à danser dessus, quoi. J'étais là, ah ouais, et tout, comment ça envoie et tout. Et que ça, il faut qu'on l'explique aux gens, leur montrer en déconstruisant tout ce qui peut apparaître au grand public, des fioritures, tout ce comme ça, découvrir l'énergie qu'il y a là-dedans. Et après, quand on est dans l'opéra, juste derrière le mur, là, on vit un truc, des frissons, quoi.
Ça, on parle des sensations, là. Ouais, ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est comment physique, on fait, quoi, pour ressentir et comment on oriente aussi sur la sensation, c'est sur ça, le ressenti, et puis derrière le sens qui va. Enfin, voilà. Et ça, effectivement, en 2050, mais je pense que ça existe aujourd'hui. Enfin, après, c'est comment on fait pour le développer. Comment c'est on ça. Fait pour en faire quelque chose de plus
universel,
ouais, de quelque chose qui touche naturellement. Et je pense que l'école est un vrai vecteur, piste pour qu'en 2050, la culture soit présente partout.
Les cultures sont émancipatrices.
Et c'est ça, c'est la recherche de l'émancipation et les droits culturels, pour revenir au sujet. C'est vraiment cette notion d'émancipation et d'arrachement à des choses du quotidien qui sont notre quotidien aujourd'hui. Ouais, mais avec la pratique culturelle, comment on s'arrache, comment on s'émancipe on arrive à aller au-delà de simplement de nos problématiques du quotidien.
J'aime bien cette idée d'arrachement.
C'est Patrice Meyerbeer qui l'a dit, je cite. Mais effectivement, c'est assez fort comme terme.
Exactement. Pour finir, il te revient de formuler un vœu pour 2050.
Je ne l'ai pas du tout préparé, celle-là.
Ah, pourtant, je te l'avais dit. Tu t'es laissé le plaisir que ça soit spontané.
C'est peut-être, involontairement, inconsciemment. Un vœu pour 2050. Ce qui est compliqué dans le vœu, c'est sans que ce soit naïf et que ce soit. En même temps, je.
Moi, je me considère comme quelqu'un de naïf et j'aime bien ça.
Oui, j'ai un peu cette tendance-là aussi, mais en 2050, vu qu'on a parlé de droits culturels pendant toute cette demi-heure, là, moi, je dirais que les droits culturels, ça soit beaucoup moins abscons, beaucoup moins compliqué à comprendre, que ce soit quelque chose qui soit tout à fait normal et que finalement, on respecte effectivement ces droits culturels des personnes, que chacun puisse être reconnu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses pratiques, sans jugement, sans jugement de valeur ou quoi que ce soit, et que ça n'empêche pas que des choses existent par ailleurs parce que c'est reconnu, que c'est institutionnalisé, etc. Et qu'on trouve ces équilibres entre la reconnaissance individuelle des droits culturels, la reconnaissance des droits culturels individuels des personnes et cette pratique plus générale, plus globale, artistique, qu'elle soit professionnelle et là, avec tout ce patrimoine et en même temps, cette construction du.
Ouais. Merci beaucoup à toi.
Merci Rebecca.
Après cette conversation, je me suis demandé quel était mon propre socle de droit culturel. Quelle est donc la culture qui me constitue ? J'avais et j'ai encore du mal à répondre à cette question. Je suis un petit être qui picore ici et là, mais je ne désespère pas de pouvoir, en 2050 par exemple, du haut de mes 73 ans, dire qui je suis. Quelques ressources pour aller plus loin, ça vous tente ? Je vous glisse dans le descriptif de l'épisode des liens vers Patrice Meyerbeer, vers un dossier hyper intéressant intitulé « Les droits culturels, enjeux, débats, expérimentations », également vers la déclaration de Fribourg dont parle Manuel dans l'épisode. Vous voilà, le panier est plein, alors je vous laisse vaquer à vos occupations. Non, attendez un instant, je termine en vous disant que depuis quelque temps, j'ai une envie de plus en plus forte de faire partie d'un podcast collectif. Je vous livre mes petits secrets. Et aussi que grâce à l'association Podcastéo, j'ai récemment découvert de nouveaux podcasts qui me font du bien aux oreilles. Je vous en reparlerai. Et puis, pour finir, je voulais aussi vous dire que la bienveillance et l'écoute sont des valeurs précieuses. Et plus que tout, soyons toujours curieux.